Bonjour, soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, les blindés russes aux portes de Kiev, des premiers combats dans les faubourgs. Une partie des habitants de la capitale ukrainienne, comme Roman, ont vécu la nuit aux abris.
Même en journée, là je suis à côté de l'abri parce qu'il y a eu des sirènes, on se rassemble, on descend, donc voilà.
La bataille de Kiev, c'est celle pour faire tomber le régime ukrainien. Appel poignant du président Zelensky au monde. Qui est prêt à se battre pour l'Ukraine? Je ne vois personne. Il décrète la mobilisation générale dans son pays. 100 000 personnes sur le chemin de l'exode selon l'ONU. Les sanctions occidentales, on veut priver la Russie d'une série de produits technologiques, nous vous expliquerons. Toutes vos questions sur ce conflit en Ukraine, posez-les dès maintenant. 01 45 24 7000, l'appli France Inter, rubrique Réagir. À 13h30, nous serons avec Bruno Tertrais, directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique. J'ajoute qu'une réunion de l'OTAN se tient cet après-midi. Et puis la guerre a des répercussions secondaires dans d'autres domaines. La finale de la Ligue des Champions de football n'aura pas lieu à Saint-Pétersbourg comme prévu, mais au Stade de France. Et puis à New York, le Carnegie Hall écarte le chef d'orchestre réputé pro-Poutine, Valéry Gergiev, pour les concerts du week-end. Dans l'actualité également, la décrue de l'épidémie de Covid se confirme. Incidence en baisse de presque 40% en une semaine. Les Césars, ce soir. Le grand favori s'appelle Balzac. Illusion perdue, l'adaptation de Xavier Giannoli. Le grand absent sera Gaspard Ulliel. Hommage de Xavier Dolan à son ami ce matin sur France Inter. Vous l'entendrez. Le 13-14, deuxième jour de conflit en Ukraine. Vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
Et un premier témoignage sur la situation à Kiev tout de suite. Elle s'appelle Tetiana Ogarkova. Valérie Krova, l'adjointe, ce matin au téléphone. Kiev, au deuxième jour de guerre.
Il y a des groupes de militaires qui essayent d'être à Kiev, des hommes qui essayent d'entrer à Kiev. Il y a ça tire dans certaines rues, pas centrales pour l'instant. Il y avait aussi des combats très intenses à Obolonie. Obolonie, c'est, pour vous expliquer, c'est comme à Paris, ça serait par exemple le 20e ou 19e arrondissement. Vous voyez, on a reçu des témoignages des amis qui ont passé pour la plupart la nuit, une partie de nuit en tout cas, dans les souterrains. Il y avait vraiment, ça tirait carrément dans les cours des immeubles. Ils ont vu des corps morts, des soldats russes abattus. Et selon les dernières informations que j'ai, après voilà, donc c'est, on ne voit pas de nos propres yeux, il y a certains groupes qui sont déjà détruits par l'armée ukrainienne, par la défense territoriale ukrainienne.
Les Russes veulent décapiter le pouvoir ukrainien, disent les Américains. Ils veulent sortir l'Ukraine de la carte des États, pour le ministre Jean-Yves Le Drian ce matin sur France Inter. Libérer les Ukrainiens de l'oppression, ça c'est la version russe d'une histoire réécrite. Cela passe donc par une offensive sur la capitale, siège du pouvoir, Kiev. Bonjour Eric Biegalin.
Bonjour Bruno.
En direct de Kiev pour France Inter, des blindés russes sont aux abords de la capitale et même en partie à l'intérieur.
Oui, c'est ce que disait ce témoin interrogé tout à l'heure. Hein. Les forces russes sont vraiment entrées dans Kiev et plus précisément dans ce faubourg nord de la capitale, sur la rive occidentale du Dniepr, au Bologne. C'est à environ 8 km du centre-ville. Plusieurs blindés transportent de troupes, mais aussi au moins un véhicule lance-missile, ainsi que des camions conduits par des Russes déguisés, portant l'uniforme ukrainien. Ils se sont infiltrés dans ce quartier de barres d'immeubles, à la grande surprise des résidents. Alors certaines de ces troupes russes infiltrées ont été neutralisées, notamment ceux qui se battaient sous uniforme ukrainien. Mais les combats ne sont pas finis dans cette partie de la ville. Et plus au nord, à une dizaine de kilomètres de Bologne, les Russes poussent sur au moins trois axes de pénétration en ville. Ils ont été ralentis par l'armée ukrainienne qui dynamite maintenant systématiquement tous les ponts, et ils sont nombreux, qui permettent d'arriver en ville. Mais les Russes progressent toujours. Il y a d'ailleurs peut-être d'autres infiltrations russes en ville. Il y a une heure en tout cas, des échanges d'armes automatiques se faisaient entendre sur les rives orientales du Dniepr à Podil. C'est l'ancien quartier commerçant historique de Kiev. Cette fois, on est en plein centre-ville.
Et puis Eric, une bataille fait rage depuis hier pour le contrôle de l'aéroport en partie militaire d'Ostomel à Kiev.
Alors c'est le même front en fait. Ce sont les troupes dont je vous parlais à l'instant, oui, qui poussent sur trois axes. L'un de ces axes, c'est l'aéroport d'Ostomel. L'aéroport d'Ostomel a été pris par un posé d'assaut des troupes aéroportées russes hier à la mi-journée. Il a été repris par les forces de la 4e brigade motorisée ukrainienne hier soir vers 21h-22h. Une bataille assez féroce, semble-t-il, puisque les troupes russes ont perdu quelque chose comme 200 hommes, prisonniers, tués, blessés. C'est assez effroyable. Mais un second assaut aéroporté a eu lieu manifestement ce matin, qui est appuyé là derrière par des blindés qui sont arrivés de Biélorussie.
Merci Eric Bégala en direct de Kiev avec nous. Restez encore quelques minutes s'il vous plaît, on verra la situation ailleurs dans le pays. D'abord un autre témoignage, celui de Pascal Boiteux, c'est un Français entrepreneur installé à Kiev. Il raconte lui aussi l'ambiance dans la ville en ce jour où la bataille de Kiev prend un tour crucial.
J'ai été témoin de coups de Kalachnikov à 200 ou 300 mètres de chez moi où vraisemblablement des saboteurs ont voulu faire sauter un pont. L'armée est intervenue de suite, on entend aussi des canons qui sont au loin, je crois qu'ils sont à une dizaine de kilomètres, les coups de canon. Le centre-ville est calme, voire très très calme, il n'y a pratiquement pas de voitures qui circulent, les seules voitures qui circulent, elles circulent avec des gens qui vont se battre, avec ils récupèrent des gens dans les rues, et ils leur donnent des armes, et ils partent au front, une dizaine de kilomètres. À part ça, il y a quelques marcheurs, mais très peu, elle s'est quand même beaucoup vidée, les gens, dans la panique, ont préféré aller en campagne.
Et il reste quelques centaines de Français en Ukraine. Ils sont appelés, s'ils ne l'ont pas fait, à contacter la cellule de crise de l'ambassade. La consigne à ce stade est de rester chez eux. La sécurité du président ukrainien est-elle aussi en jeu? La France est-elle prête à participer à une éventuelle opération d'infiltration? Nous prendrons les dispositions qu'il convient de prendre, dit laconique le chef de la diplomatie Jean-Yves Le Drian. Bonjour Julie Pietri.
Bonjour.
Si tous les pays occidentaux disent leur solidarité avec l'Ukraine, le président Zelensky, c'est bien un homme seul qui est apparu cette nuit en vidéo.
Et il l'a dit d'ailleurs cette nuit dans ce message publié sur le compte de la présidence ukrainienne. L'Ukraine est laissée seule face à la Russie. Qui est prêt à combattre avec nous? Je ne vois personne. Et Volodymyr Zelensky parle désormais de groupes de sabotage russes entrés dans la capitale.
Selon les informations dont nous disposons, l'ennemi m'a désigné, moi, comme la cible numéro 1 et ma famille comme la cible numéro 2. Ils veulent détruire l'Ukraine politiquement en détruisant le chef de l'État.
Volodymyr Zelensky qui assure qu'il restera à Kiev et que sa famille restera en Ukraine. Zelensky, une cible, les mots employés ces derniers jours par Vladimir Poutine ne laissent effectivement guère de doute. Le président russe a parlé de dénazification du pays. Le pouvoir ukrainien est pour lui une junte. Il y a quelques minutes, Volodymyr Zelensky a demandé aux Européens qui ont l'expérience du combat de venir en Ukraine pour défendre l'Europe.
Et il estime que la réponse européenne à la Russie à ce stade est trop lente. On parle des sanctions dans quelques instants. D'abord, comme prévu, on retrouve Eric Bégala en direct de Kiev pour faire un point sur la situation dans le reste du pays, au-delà de la capitale. Eric.
Alors, à l'est du pays, sur la frontière orientale, les Russes ont effectué une percée en direction de Kiev. Ils ont encerclé la petite ville de Konotop, qu'ils n'ont même pas essayé de prendre, et poursuivent leur route, en fait, vers l'ouest et vers la capitale. Ils semblent avoir été stoppés par la destruction des deux ponts qui enjambaient chacun un affluent du Dniepr sur l'autoroute de Kiev. À Kharkiv, c'est la deuxième ville du pays, complètement à l'est, hein, sur la frontière, le centre-ville était ce matin sous le feu du tir de Katyusha, un des lance-roquettes multiples, autrefois surnommé les orques de Staline, tirent indiscriminés, sans aucune utilité militaire, mais qui terrorisent à coup sûr la population. Un peu plus au sud, dans le Donbass, les forces ukrainiennes tiennent toujours la ligne de front et apparemment se sont même payé le luxe d'attaquer l'aéroport de Milerovo en Russie même. Manifestement, un tir de missile à longue portée, l'aéroport de Milerovo est en tout cas en flammes ce matin. Enfin, tout au sud du pays, l'armée ukrainienne continue sa contre-offensive dans la région de Kherson, juste au nord de la Crimée occupée. Elle a manifestement réussi, cette armée ukrainienne, à détruire complètement au moins deux colonnes de blindés russes, mais ne semble pas avoir récupéré de positions significatives, notamment la ville de Kherson elle-même, qui reste toujours sous contrôle russe.
Eric Bégala à Kiev et 100 000 personnes sur la route de l'exode, selon l'ONU, partir ou pas, chaque Ukrainien quasiment est confronté à cette question. Écoutez, Roman, il a 50 ans, il est à Kiev, il y a 6 personnes dans sa famille, 150 dans l'abri où il a passé la nuit. Lui choisit de ne pas partir pour l'instant, il raconte à Marion Ferrer.
Cette nuit, effectivement, il y a eu des bombardements. On a été dans un abri, on va dire, dans un sous-sol. Par contre, pour certaines personnes, c'était difficile parce qu'il y a eu des missiles envoyés par les Russes qui se sont explosés. Il y avait même eu un incendie dans une maison à 9 étages, quoi. Les Russes, ils ont commencé à bombarder des quartiers où habitent les gens, quoi.
Cette nuit, vous retournerez dans l'abri?
Bah, même en journée, là, je suis à côté de l'abri parce qu'il y a eu des sirènes, on se rassemble, on descend. quand il y a une sirène, tout le monde descend. Après, au bout d'un moment, tout le monde sort. Donc voilà.
Vous n'allez pas quitter Kiev pour le moment, vous restez.
On pense que partir, c'est plus dangereux parce que sur les routes, il y a des groupes de Russes qui ont été parachutés. Et voilà, donc ça crée plus de dangers sur les routes plutôt qu'en ville.
Nous allons à présent à Dniepro, justement sur ces routes de l'Exode. Dniepro, plus à l'est du pays, c'est là que se trouve l'une de nos équipes d'envoyés spéciaux, Jérémy Thuil et Thibault Lefebvre. Bonjour Thibault.
Bonjour Bruno.
Une scène qui révèle, avant de parler de l'Exode, une scène qui révèle le climat et que vous nous racontez, des distributeurs de billets pris d'assaut.
Oui, c'est très nerveux ici devant les distributeurs.
Покажите аккредитацию. У вас должна быть фишечка здесь. Пресс.
Avec cette dame qui attend depuis des heures sous une pluie glaciale et qui n'en peut tout simplement plus.
Qu'est-ce qui se passe ? Les gens font la queue ?
Да, денежку получить надо.
Ils veulent de l'argent.
Money, money.
La tension est encore montée d'un cran ici, avec la guerre qui est sur tous les écrans, la télévision et les téléphones bien sûr. Dniepro est pour le moment relativement épargné, avec une frappe avant-hier près de l'aéroport, mais les images de l'armée russe aux portes de la capitale Kiev et dans toutes les têtes. Philippe attend depuis plus d'une heure, il est venu vider son compte en banque.
I want to get cash because,
je veux récupérer de l'argent, dit-il. Je ne sais pas ce qui se passera demain. Et je ne trouve pas les mots pour parler de cette situation. Personne ne sait. Il n'y a que Poutine qui sait ce qui va se passer. Dniepro et ses habitants sont sur le qui-vive, couvre-feu à 22h et des soldats armés en tenue de combat et donc prêts en cas d'offensive.
Et Thibault, avec Jérémy Thuil, vous êtes donc sur la route de Kiev avec ses convois d'exilés.
Nous sommes sur la route de Kiev, à 500 km environ de la capitale. Les convois d'exilés sont toujours aussi impressionnants. Avec cette voie unique, plutôt en bon état, nous sommes au ralenti, bloqués par endroits, par des checkpoints de militaires ukrainiens de plus en plus équipés. Tout à l'heure, à la sortie de Dniepro, par exemple, des engins de chantier préparaient des barricades en béton armé. Ambiance de veillée d'armes ici, avec un vrai risque pour ces dizaines de milliers de civils en fuite. Ils prennent les mêmes routes que les convois militaires qui filent vers Kiev et qui peuvent à tout moment être la cible de nouvelles frappes russes destinées à déstabiliser l'organisation de la défense de la capitale ukrainienne.
Thibault Lefebvre avec Jérémy Thuil sur la route de Kiev, alors que donc quelques 100 000 Ukrainiens sont sur la route de l'Exode. Commentaire de Sergueï Lavrov, l'indéboulonnable chef de la diplomatie russe. La Russie est prête à des négociations avec l'Ukraine si ce pays dépose les armes. Voilà ce que dit Sergueï Lavrov. Le pape s'est rendu à l'ambassade de Russie devant le Saint-Siège pour exprimer sa préoccupation face à ce conflit. La Chine plaide pour des négociations avec l'Ukraine. Le dictateur Bachar el-Assad, le Syrien, l'invasion russe en Ukraine est une correction de l'histoire. Autre mot, ceux du chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, sur la chaîne des États-Unis CBS.
Vous n'avez pas besoin que les services de renseignement vous disent exactement ce que Poutine veut. Il a été très clair. Ce qu'il souhaite, c'est reconstituer l'Empire soviétique. En quelque sorte, il veut réaffirmer sa sphère d'influence dans ces pays qui auparavant appartenaient au bloc soviétique. Maintenant qu'on a dit cela, si on parle d'une menace qui irait au-delà des frontières de l'Ukraine, il y a quelque chose de très puissant qu'il va trouver sur son chemin. C'est l'article 5 de l'OTAN. Une attaque sur n'importe quel membre de l'OTAN est une attaque contre nous tous. Alors je ne suis pas dans la tête de Poutine. Je ne sais pas ce qu'il sous-entend quand il fanfaronne. Nous étions prêts à utiliser les moyens diplomatiques pour empêcher cette agression. Nous sommes prêts à réagir maintenant qu'il a commis cette agression.
Voix off Grégory Phillips. Pour Joe Biden, le président américain, Vladimir Poutine va devenir un paria sur la scène internationale. Hier, Européens et Américains ont annoncé une nouvelle série de sanctions contre les États-Unis. L'objectif est d'asphyxier l'économie russe. Laurent Kramer, cela passe en particulier par le fait de priver la Russie d'accès à toute une série de produits technologiques.
Oui, frapper la Russie là où ça fait mal pour assécher son approvisionnement technologique sur les secteurs clés de son économie. Le pétrole et le gaz tout d'abord, avec un blocus sur toutes les technologies indispensable à l'extraction de nouveaux gisements pétrolifères et gaziers. La Russie est assise sur d'énormes réserves, mais dans des zones hostiles, difficiles d'accès au nord du cercle arctique. Ces sanctions ont pour but de couper tout transfert de technologie de pointe indispensable à l'extraction de ces nouveaux gisements pour la Russie. Les États-Unis ayant déjà bloqué ces technologies minières à la Chine depuis 2020, la Russie n'aura donc pas d'approvisionnement alternatif. Le but est donc bien d'affaiblir à moyen terme les capacités de production en gaz et en pétrole de la Russie.
Plus immédiate, les sanctions conjointes, on sait à quel point ils sont précieux et ils manquent sur les semi-conducteurs.
Oui, elles sont indispensables évidemment dans la défense, l'aéronautique, l'aérospatiale, l'automobile et tout appareil de communication. Elles manqueront cruellement et poseront de réelles difficultés à la Russie. Stratégie d'encerclement là aussi, car l'embargo américain et les sanctions depuis 2020 sur les semi-conducteurs en Chine assèchent également l'approvisionnement en Asie. Dans l'aéronautique, la livraison de toutes pièces détachées en revanche pour les compagnies aériennes russes est interdite. Sur ce point-là, on peut imaginer que la Russie n'aura pas de difficultés en passant par un pays tiers pour contourner les sanctions.
Voilà, pour la technologie, il y a des sanctions financières aussi dont le sens est de réduire l'accès de la Russie au marché de capitaux. Les Européens n'ont pas sorti l'arme lourde, privé Moscou d'accès au système d'échange bancaire SWIFT. Troisième type de sanctions, viser les avoirs, les finances d'une série de responsables russes, les biens immobiliers, les carnets de chèques, la circulation en France. La Direction Générale des Finances doit identifier les personnes visées. L'économie française est peu exposée à la Russie, assure Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. C'est un partenaire secondaire, dit-il. À propos de l'économie française, parenthèse, deux chiffres clés sont tombés ce matin. Selon l'INSEE, le pouvoir d'achat des ménages a progressé l'année dernière, plus 1,9%. Malgré la hausse des prix, donc, qui s'amplifie cette hausse des prix, inflation à 3,6% sur un an ce mois-ci. Et puis on parlait des sanctions prises par les Occidentaux, eh bien, ils s'exposent à des contre-sanctions de la Russie. Le Kremlin promet des répliques symétriques ou asymétriques. Hier, par exemple, Londres a interdit la compagnie russe Aeroflot de desservir le Royaume-Uni. Eh bien, en réponse, la Russie bannit de son espace aérien tous les avions liés au Royaume-Uni, y compris ceux de passage entre Europe et Asie. En France, la campagne électorale est sous l'été noir depuis hier. Emmanuel Macron recevait en fin de matinée ses deux prédécesseurs à l'Élysée pour parler d'Ukraine. Bonjour Simon Le Baron.
Bonjour.
En direct de l'Élysée, Nicolas Sarkozy après François Hollande. Nicolas Sarkozy qui est sorti lui aussi.
Oui, absolument. Et d'abord, c'est François Hollande, vous l'avez dit, qui a été reçu. Poignée de main rapide sur le perron de l'Élysée. Rancœur tenace entre François Hollande et Emmanuel Macron. Mais l'heure est à l'unité, dit l'ancien président socialiste.
Il y a des moments où la nation doit se retrouver à travers ceux qui l'ont dirigé.
François Hollande rappelle que lui a participé à l'obtention d'un cessez-le-feu au Donbass en 2014 et ne se prive pas de donner ses bons conseils à son successeur. Il faut des sanctions beaucoup plus lourdes.
Ce qui a été dit hier n'est pas suffisant. Voilà, ce que l'Europe doit faire, c'est se faire respecter. Il n'y a pas de diplomatie sans rapport de force. C'est de l'avoir peut-être oublié quelquefois que l'Europe a pu être considérée comme naïve.
Critique en creux du revers diplomatique subi par Emmanuel Macron. Vient ensuite Nicolas Sarkozy et les relations avec l'ancien président de droite sont là nettement plus chaleureuses.
La voie du dialogue est difficile, souvent décevante, mais il n'y a pas d'alternative. Il faut donc continuer dans cette voie. Il n'y a pas d'autre choix. Et si la France ne le fait pas, personne ne le fera à la place de la France.
C'est bien une double image que cherchait Emmanuel Macron aujourd'hui en recevant ses prédécesseurs, celle de l'Union nationale et de la stature internationale.
Simon Le Baron en direct de l'Élysée avec Frédéric Kérou. Un message d'Emmanuel Macron doit être lu au Sénat et à l'Assemblée nationale cet après-midi. Et Jean Castex reçoit à Matignon les chefs des groupes parlementaires et les présidents des deux assemblées pour aborder la situation en Ukraine. Ce conflit a des impacts dans des domaines nettement moins vitaux que le militaire, mais fort symboliques. Deux décisions importantes dans le monde du sport. Le Grand Prix de Formule 1, prévu en Russie en septembre, est annulé. Et puis en football, bonjour Nathalie Yanetta.
Bonjour Bruno.
La finale de la Ligue des Champions, la plus grande compétition de clubs en Europe, ne se tiendra pas comme prévu à Saint-Pétersbourg, mais à Saint-Denis.
Voilà. Et alors, comme souvent, Bruno, eh bien, tout est une affaire de symbole. Le lieu de la finale de la Champions League est devenu, en 24 heures, un enjeu politique que même l'UEFA n'avait pas mesuré. Certains que la finale allait évidemment être retirée à Saint-Pétersbourg. Eh bien, de nombreux chefs d'État, pas de fédération, chefs d'État ont fait acte de candidature depuis hier. Alors, il y a eu la Hongrie, la Grande-Bretagne a fait pression. Même des États du Golfe ont mis sur la table des sommes faramineuses pour accueillir cette finale. Et c'est finalement un acte politique qu'a choisi de faire Alexander Tchéférine, le président de l'UEFA. Il a seul discuté au téléphone hier soir avec Emmanuel Macron pour lui proposer d'accueillir cette finale au Stade de France. Ce sera la même date, ça sera le 28 mai. Mais derrière cette décision, il y a trois raisons. D'abord, le Stade de France, il est prêt. L'Euro 2016 n'est pas loin et l'UEFA a eu l'habitude l'habitude de travailler avec cette enceinte. Ensuite, c'est un coût politique à moindre coût aussi pour le président français. Hein, même si l'Élysée est très sobre ce matin et dit juste prendre acte de la décision de l'UEFA. Mais on sait en creux que c'est un moyen pour l'UEFA de remercier le président français qui avait été un profond soutien au moment de la crise de la Super League, on s'en souvient. Ouais. Et puis un symbole, hein, ben on y revient, un symbole pour l'UEFA, c'est celui d'organiser cette finale dans le pays qui préside l'Union européenne.
Au Stade de France, donc le 28 mai, encore une image en football, celle des larmes du milieu ukrainien de Bordeaux. Danilo Ignatenko, ukrainien, donc, est arrivé en larmes à l'entraînement hier. Et puis dans ce contexte où même le monde du sport est touché par ce conflit, eh bien un Russe va devenir numéro un mondial du tennis, Daniil Medvedev. Il passera lundi devant Novak Djokovic. Premier commentaire à ce stade, dit Medvedev, le tennis n'est parfois pas si important. Et ce conflit a des conséquences dans le domaine de la musique classique aussi. Stéphane Capron, à New York, la salle du Carnegie Hall écarte le chef d'orchestre russe Valery Gorgiev, connu pour ses sympathies poutiniennes. Il devait donner une série de représentations ce week-end.
Déjà cette semaine, à Milan, alors qu'il dirigeait mercredi soir la première de la Dame de Pique de Tchaïkovski, Dominique Meyer, le directeur français de la Scala, avait demandé à Valery Gergiev de clarifier sa position sur l'invasion de l'Ukraine en le menaçant de se séparer de lui pour les deux prochaines représentations en mars. Hier soir, la direction du Carnegie Hall a donc décidé de le remplacer pour les concerts de ce week-end. C'est le cas aussi pour le pianiste Denis Matzuev, lui aussi soutien de Poutine. Dans le passé, la salle new-yorkaise avait déjà été envahie par des militants LGBT lors de précédents concerts dirigés par Gergiev, qui lui reprochait son silence sur les meurtres à l'encontre d'homosexuels en Russie. Valery Gergiev est le directeur général du théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg, proche de Poutine depuis 92. Sa participation à des concerts en Ossétie du Sud, bombardée et à Palmyre, aux côtés de l'armée syrienne, lui ont déjà valu plusieurs polémiques. Des soupçons circulent aussi sur le fait que de grands industriels, notamment français, auraient fait des dons pour son centre de musique et d'opéra en échange de rencontres avec Vladimir Poutine.
La musique, le sport et le cinéma. La présidence ukrainienne fait savoir que le réalisateur américain Sean Penn est à Kiev pour tourner un documentaire sur l'offensive russe.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Dubuc.
Allez, il est un domaine où l'inquiétude diminue au fil des jours. C'est l'épidémie de Covid. Taux d'incidence en baisse dans presque toutes les régions. Presque moins 40% en une semaine. Santé publique France détaille cette décrue par indicateur, Sophie Becherel.
Pour la troisième semaine consécutive, en effet, l'incidence, le taux de positivité, le nombre de nouvelles hospitalisations et les décès sont en forte baisse, entre 20 et 30%. Et ça devrait continuer compte tenu du taux de reproduction. Le fameux R effectif, il est à 0,57. Comme c'est la conjonction de plusieurs indicateurs qui importent pour jauger de l'évolution de l'épidémie, on peut dire qu'il y a une réelle amélioration. L'incidence reste pourtant bien au-delà du seuil des 50 pour 100 000 habitants, le sésame qui nous délivrera de toutes les contraintes. Elle est en moyenne en France aujourd'hui de 833 pour 100 000 habitants, avec de forts contrastes régionaux, puisque l'Île-de-France est au plus bas, tandis que le Grand Est, la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie sont les plus impactés. Fini le temps du variant Delta, c'est Omicron qui est aujourd'hui hégémonique, avec le sous-variant BA2, plus contagieux, qui continue de gagner du terrain. Mais selon l'OMS, il y a peu de risques d'être recontaminé par BA2 si on a déjà eu BA1. Mardi, l'Institut Pasteur, dans ses projections, disait d'ailleurs ne pas s'attendre à ce que ce deuxième sous-variant provoque un fort rebond des contaminations, grâce notamment à la bonne couverture vaccinale des Français.
L'actualité judiciaire à présent et cette soirée de cauchemar à Angers en octobre 2016, le balcon du 4e étage d'une résidence qui s'effondre. 18 personnes tombent, 4 personnes étaient mortes, 14 grièvement blessées. 5 hommes sont jugés depuis le début du mois à Angers. Un chef de chantier, conducteur de travaux, gérant de l'entreprise de gros œuvres, architecte et contrôleur technique. Bonjour Sophie Constanzer.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
En direct d'Angers, vous suivez ce procès. Ce vendredi, place à la parole des familles de victimes, Sophie.
Oui, devant le portrait de sa fille projeté dans la salle d'audience, une jolie jeune femme brune au regard noir profond. Le père de Lou résume, alors que ma fille naissait en janvier 1998, ces hommes-là dans le box étaient en train de construire ce qui allait la tuer 18 ans plus tard, un balcon. Le 15 octobre 2016, sa fille Lou, 18 ans, a fait une chute de 8 mètres. Elle est morte écrasée par des tonnes de béton. Et son fils aîné, Théophile, 20 ans, a aussi fait une chute de 8 mètres. Il a vu sa petite sœur, donc, et ses deux meilleurs amis mourir sous ses yeux. Au tribunal l'hôpital, le père raconte cette nuit interminable au CHU d'Angers pour savoir si ses enfants avaient survécu au drame. Et d'un coup, Théophile, l'enfant survivant, s'avance à la barre et la salle se fige. C'était un samedi soir, je faisais la fête avec ma petite sœur et mes amis. Et puis la semaine d'après, je suis allée à 3 enterrements. Les mains dans le dos, le jeune homme, aujourd'hui ostéopathe, poursuit. Le mot balcon, je ne peux plus. Et quand je suis sur un balcon, j'ai peur qu'il tremble, qu'il penche. Et je ne m'approche jamais du bord. Il égrène enfin les noms des 4 victimes. Je pense à Lou, Benjamin, Baptiste et Antoine.
Sophie Costanzer en direct d'Angers pour France Inter pour suivre ce procès. Ils font petit à petit leur apparition dans le paysage agricole. Des panneaux solaires juste au-dessus des vignes, des pommiers, des cerisiers. Un jour de l'ouverture, à la veille de l'ouverture du Salon international de l'agriculture à Paris, coup de projecteur sur l'agrivoltaïsme, pratique qui sort de l'ombre. L'objectif de ces panneaux solaires, c'est de produire de l'électricité verte, mais surtout de protéger les vignes et les arbres fruitiers contre le gel et les canicules. Reportage de Sandy Dauphin à L'Oriole dans la Drôme, chez le premier producteur de cerises à expérimenter l'agrivoltaïsme.
Là, on est sur la parcelle donc d'expérimentation.
Dans une partie du verger de Christian Clerc, les cerisiers sont abrités sous des panneaux solaires qui pivotent grâce à l'intelligence artificielle pour faire plus ou moins d'ombre.
Sur nos cerisiers, il va y avoir des sondes qui vont envoyer des informations sur les panneaux en fonction du besoin du soleil, de l'ombre. Suivant l'information qu'ils vont recevoir, les panneaux vont bouger.
Une solution high-tech choisie par cet arboriculteur pour adapter ses vergers aux effets du changement climatique, gel précoce, brûlure et sécheresse.
Donc voilà, une brûlure de soleil, c'est ça. Quand l'écorce éclate, c'est qu'il y a eu trop de chaleur, trop de soleil dessus. Avec les panneaux, normalement, on aura plus de problèmes, puisque les panneaux vont être orientés quand on aura un gros pic de chaleur pour créer de l'ombre sur l'arbre.
De son côté, l'entreprise qui produira et vendra l'électricité du verger s'engage à faire passer les besoins en soleil des arbres avant ceux des panneaux solaires, condition posée par Sonagri, pionnière dans l'agrivoltaïsme, partenaire du projet Anne-Lise Salomé.
Si on installe des centrales au sol sur des terres agricoles, sans adapter finalement cette centrale à ce qui est en dessous, on risque en fait de perdre l'activité agricole qui était initiale sur ce site-là.
Les acteurs de l'agrivoltaïsme réclament un encadrement plus strict de ce solaire innovant pour éviter les dérives.
Et l'inauguration du Salon de l'agriculture, c'est demain. Et ce soir, c'est la 47e cérémonie des Césars. C'est à l'Olympia. Le grand favori de la soirée est le film de Xavier Giannoli, Illusion perdue d'après Balzac. 15 nominations, dont celle du meilleur film. Au casting, il y a Xavier Dolan, nommé dans la catégorie meilleur acteur dans un second rôle. Il était ce matin l'invité de France Inter et il rendait hommage à celui dont on verra forcément le visage ce soir quand on saluera les disparus de l'année, l'ami de Xavier Dolan, Gaspard Ulliel.
Je pense à lui constamment en fait. Il est très tôt, ça va prendre énormément de temps avant d'accepter ce départ-là. C'est inconcevable et puis je rêve souvent à lui. Je pense toujours à lui, je pense à son fils, je pense à son talent, à sa beauté. Et puis j'en parlerai, je vais lui rendre hommage en fait.
Au César ?
Oui.
C'est pour ça en fait que vous êtes venu à Paris, au-delà de votre nomination.
Honnêtement, sans nomination, je serais venu. La nomination est une validation. Je ne veux pas dire superfétatoire parce que je l'apprécie. Et puis je ne veux pas dire qu'elle est inutile pour moi, mais qu'elle n'est pas la motivation première de mon déplacement ici. Je voulais absolument dire des choses sur Gaspard. Je l'ai connu professionnellement, je l'ai connu intimement aussi. Bon, il faudrait que je me contrôle un petit peu plus que ça quand je parlerai de lui, mais j'avais besoin, je pense, de dire personnellement à quel point je l'aimais et pourquoi.
L'émotion de Xavier Dolan ce matin au micro de Léa Salamé sur France Inter. Il rendra donc hommage à Gaspard Ulliel ce soir au César, Illusion perdue parmi les favoris, aux côtés d'Annette, la comédie musicale, et Aline, le biopic de Valérie Lemercier sur la vie de Céline Dion. Dans un instant, la météo, le temps pour moi de vous rappeler 01 45 24 7000 pour dialoguer avec le spécialiste en stratégie Bruno Tertrais à propos de la guerre en Ukraine. C'est dans 2 minutes.
Pour Arnaud, retrouver son souffle, ce n'est pas important, c'est essentiel. Pour son bien-être, bien sûr, mais aussi pour pouvoir continuer longtemps de rouler avec son club de vélo. Avec la médecine thermale, prenez naturellement soin de vous pour bien vivre aujourd'hui et pour mieux vivre demain. Trouvez votre cure thermale sur médecinethermale.fr. La médecine thermale, restez soi-même et pour longtemps.
France Inter aime
le 46e printemps de Bourges Crédit Mutuel du 19 au 24 avril. Le festival de l'émergence, des créations et de la découverte. Avec Jacques et Thomas Dutronc, Dinos, Sofiane Pamar, Ichon, Fishback. Le printemps de Bourges Crédit Mutuel du 19 au 24 avril. Le festival où tout commence. un événement France Inter en partenariat avec France Télévisions. Toutes les infos sur franceinter.fr.
Le temps de ce jour.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Bonjour Jean-Pierre Hameau.
Bonjour Bruno.
Ah ben du soleil en cette fin de semaine.
Et oui, effectivement, nous allons profiter du retour de l'anticyclone des Açores. Le soleil va briller généreusement cet après-midi dans la plupart des régions, excepté dans la région Grand Est, où les nuages plus nombreux et bourgeonnants apporteront quelques averses de pluie, voire de neige sur les Vosges à partir de 600 mètres d'altitude. Prévoyez des nuages aussi au-dessus du massif alpin. En revanche, le temps restera sec. Et puis Mistral et Tramontane vont souffler entre 70 et 80 km par heure dans leur domaine. Côté température, les maximales évolueront entre 8 et 16 degrés du nord au sud.
Merci Jean-Pierre Hameau, Météo France, il est 13h30.
France Inter, le 13-14. Bruno Duc.
Et en ce deuxième jour de conflit en Ukraine, 01 45 24 7000 pour toutes vos questions au directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique. Bonjour Bruno Tertrais.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être en studio avec nous sur France Inter. Comment interprétez-vous cette offensive russe sur Kiev, la capitale ukrainienne? Quel sens lui donner?
Elle est tout à fait conforme à ce qu'avait annoncé Vladimir Poutine. Il a été clair, il a dit qu'il voulait changer le régime, j'utilise son terme, qui aujourd'hui, soi-disant, oppresserait les Ukrainiens. Et c'est un régime nazi, il l'a dit. Mmh. Hein. Donc il n'y a absolument aucun doute sur le fait qu'il va essayer de renverser M. Zelensky et de placer, j'imagine, une sorte de fantoche, de régime qu'il contrôlerait. Je suis pas sûr que ça se passe très bien, mais en tout cas, le but, il est clair.
Alors, on va détailler ça. Le but de guerre, c'est de renverser le régime. Ça n'est pas de prendre ou d'occuper Kiev.
Occuper peut-être provisoirement. Oui. Prendre, tout dépend ce qu'on entend par prendre. Je dirais que le contrôle des bâtiments gouvernementaux, dans tout ce type de guerre, c'est toujours une priorité. Mais en tout cas, ce que M. Poutine ne peut pas faire, c'est occuper l'ensemble de l'Ukraine.
Pourquoi dites-vous, je ne suis pas sûr que ça se passe très bien?
Parce que je me demande si M. Poutine ne sous-estime pas la capacité et la volonté de résistance des Ukrainiens. Vous savez, c'est un pays qui a développé une conscience nationale à l'époque moderne, extrêmement forte, du fait même des actions russes. En 2014, après l'Euromaïdan, on a vu
manifestations pro-européennes sur la place Maïdan.
Oui, tout à fait. On a vu une opinion ukrainienne qui se détachait de plus en plus de la Russie et qui voulait se rapprocher de plus en plus de l'Europe. Je crois qu'aujourd'hui, les Ukrainiens ne sont pas du tout prêts à se laisser faire. Il est à craindre qu'il y ait dans Kiev, effectivement, des batailles de rue, des actes de résistance, j'imagine des actes d'héroïsme aussi. Et face à cela, nous verrons si M. Poutine, comme il le prétend, ne s'adressera qu'à des objectifs militaires, je cite encore ses propres mots, ou s'il considérera que toute personne qui s'attaque aux forces armées russes est un ou une nazie. Là encore, je reprends ces termes. Et dans ce cas-là, malheureusement, ça pourra se passer très mal pour tout le monde.
On revient sur Kiev dans un instant, mais je voudrais laisser la parole aux auditeurs et Pierre, notamment, qui nous a appelé au 01 45 24 7000. Bonjour Pierre.
Oui, bonjour. Je veux savoir pourquoi, depuis que 30 ans que l'Ukraine est indépendante, elle s'est peut-être une force armée conséquente. Elle pourrait mobiliser 5-6 millions d'hommes, et ils ont 50 millions d'habitants, 60 millions d'habitants, donc 5 millions de soldats bien entraînés. Probablement 3000 tanks, il pourrait avoir 3000 tanks, donc 10 divisions blindées probablement. Les avions par centaines ou par milliers. Et comment ça se fait qu'en 30 ans, ils ne sont pas bien organisés pour bien pouvoir se défendre?
Bruno Tertrais, merci.
Je veux savoir quel est l'état des rapports de défense actuellement entre les Russes et les Ukrainiens.
Merci Pierre pour cette question. Mais commençons par le rapport de force.
L'héritage de l'Union soviétique, c'est une armée effectivement ukrainienne en 1991 extrêmement nombreuse, mais avec des armements, des équipements qui se sont dégradés au fil du temps. Bien sûr, l'Ukraine a racheté les équipements, l'Occident a aidé à moderniser l'armée ukrainienne, mais elle n'est pas aussi puissante que ce qu'elle était. Elle peut être à la fois nombreuse et moins puissante, en tout cas beaucoup moins puissante que l'armée russe, qui elle a bénéficié depuis une quinzaine d'années d'un énorme influx d'argent, de budget pour les forces armées, et la transformation des forces armées russes depuis une quinzaine d'années est tout à fait spectaculaire. Et là, c'est sur le plan qualitatif autant que quantitatif que le décalage se fait. Cela dit, la défense du territoire, les milices populaires, tout ça, ça existe en Ukraine. La mobilisation générale a été décrétée. Il y aura énormément de forces de milices, de forces de citoyens qui vont créer des poches de résistance tout à fait significatives, au-delà donc de ce que va faire l'armée régulière.
Revenons sur Kiev à ce propos.
On a vu donc des chars ce matin, on voit des chars ce matin aux abords de la ville, voire certains blindés qui ont déjà pénétré dans la ville. L'idée du point de vue russe est d'aller le plus vite possible justement pour éviter, côté ukrainien, une guerre de résistance et pouvoir faire tomber rapidement le régime ukrainien.
Bien évidemment, mais je dirais que l'aspect strictement militaire, le plus visible des choses, celui qu'on voit depuis ce matin à sur les télévisions, n'est pas le seul à prendre en compte, parce que nous ne sommes plus à l'époque de Stalingrad, nous sommes à l'époque de la guerre moderne, dans laquelle le cyber, l'arme cyber est extrêmement importante, et puis il y a aussi les tactiques tout à fait traditionnelles des Russes, et qui sont aussi des tactiques de l'époque moderne, qui sont l'infiltration. Il y a des membres du FSB dans une grande partie de l'administration ukrainienne, et donc il y a certainement des cellules dormantes qui vont être activées. Ça, c'est un invariant de la guerre, et c'est une tactique que les Russes maîtrisent extrêmement bien. Donc, quoi qu'il se passe, s'il y a tentative de changer le régime de Kiev, ça ne se fera pas simplement avec des chars qui occupent les rues.
Et classique aussi, ces saboteurs dont plusieurs témoins nous ont parlé ce matin, ça c'est quoi ces unités de sabotage?
Vous savez, dans tous les coups d'État dirigés de l'étranger, il y a des saboteurs, ils sont rarement en uniforme. Encore une fois, ce sont peut-être d'ailleurs des gens qui ont la nationalité ukrainienne, mais qui sont en fait des espions russes. Voilà, là encore, on est dans une tactique tout à fait classique. Nous allons voir effectivement assez vite si ça marche ou pas. Je crains pour M. Poutine, enfin je l'espère d'ailleurs, que ça ne soit pas aussi simple que ce qu'il a annoncé. Il y a aussi une question sur le sort personnel de M. Zelensky. Est-ce qu'il va vouloir rester à Kiev quoi qu'il arrive? Ou est-ce qu'il va vouloir ce qui serait mieux pour sa capacité à commander, mais qui serait un signe aussi dramatique du point de vue de l'opinion et de l'extérieur, transférer une partie de son gouvernement hors de Kiev? Ça, on le saura aussi très vite.
Et une opération d'exfiltration, c'est possible? Jean-Yves Le Drian nous disait...
Je ne veux pas rentrer dans ces détails, je ne sais pas si c'est possible aujourd'hui, s'il y avait quoi que ce soit qui se préparerait, je ne le saurais pas, et si je le savais, je ne le dirais pas, donc je ne souhaite pas rentrer dans ces spéculations.
Marc, au Standard de France Inter, nous vous écoutons Marc.
Bonjour Bruno Dufic, bonjour Monsieur Attertrait, bonjour à tous. Il me semble que la réaction de l'Union européenne est absolument insuffisante. Les seules sanctions économiques, c'est comme si l'Europe avait un portefeuille à la place d'une âme. Et je ne parle pas du blabla de Monsieur Macron. En conséquence, ce qu'on peut déjà appeler l'abandon de l'Ukraine par l'Europe n'est-il pas un signe donné non seulement à Poutine pour continuer, mais également à Xi Jinping pour prendre Taïwan, voire davantage?
Oui, alors, il y a
Bruno
deux questions.
Tertrais. Merci Marc.
Merci, il y a deux questions qui sont posées. Est-ce que c'est suffisant? Probablement pas, mais que voulons-nous faire? J'ai envie de renvoyer la question d'une certaine manière. Serions-nous prêts, si nous étions, vous et moi, aux commandes, à envoyer les forces françaises se battre contre la Russie aujourd'hui, en Ukraine? Donc, il est
juste
normal.
On se souvient qu'il y a eu une intervention de l'OTAN au Kosovo, qui n'était pas membre de l'OTAN.
Eh bien, je vais vous rappeler
juste. Pourquoi pas l'Ukraine?
Alors, je vais vous dire justement. Au Kosovo, en 1999, il se passe quelque chose de très intéressant. Les Russes, qui n'étaient pas favorables à cette opération, même s'ils ne s'y étaient pas opposés physiquement, à un moment, veulent montrer par un coup de force qu'ils sont là. Ils vont reprendre l'aéroport de Pristina, la capitale du Kosovo. Et là, les forces de l'OTAN reçoivent un ordre qui reprenait l'aéroport de Pristina. Et le commandant britannique des forces de l'OTAN sur place, je cite de mémoire, parce que cet épisode était tout à fait significatif, « Sir, I'm not going to risk World War III for you. Mon général, je ne vais pas prendre le risque d'une troisième guerre mondiale pour vous. » Les enjeux n'étaient pas du tout les mêmes. Il ne s'agit pas de se confronter directement à des forces russes chauffées à blanc par un président russe dont la rationalité commence à nous échapper un petit peu. Alors, je reviens sur l'économie. Mais oui, mais c'est important l'économie. Le pouvoir de M. Poutine, il est avant tout basé sur des fortunes, sur des oligarques. La puissance de la Russie, elle est basée aussi sur une capacité à mobiliser des ressources, à vendre des choses à l'étranger. Enfin, les sanctions économiques, je crois qu'il ne faut pas les négliger. Alors, est-ce qu'on aurait dû aller encore plus loin?
Par exemple, le réseau SWIFT.
Oui, le fameux réseau interbancaire SWIFT qui est basé à Bruxelles. Donc ça doit être une décision commune.
Pourquoi n'a-t-on pas coupé l'accès russe? Parce qu'on en a nous-mêmes besoin?
Non.
Nous, occidentaux?
Non, je pense qu'on peut couper l'accès russe sans en souffrir trop. Parce que les sanctions, ça peut nous faire mal aussi. Il faut faire attention.
Bien sûr.
Mais je crois qu'il faut garder aussi quelques munitions en réserve. Est-ce que c'est ça aussi? Est-ce que c'est SWIFT qui va vraiment pénaliser la Russie alors qu'elle a dédollarisé sa modèle? Elle a commencé à se retirer une partie des circuits traditionnels. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, on a encore quelque chose sous la semelle, comme on dit en football. Mm. Il y a d'autres sanctions possibles. Moi, ce qui me frappe, c'est que tout de même, les Américains et les Européens ont très vite réagi et avec davantage d'unité que ce à quoi on pouvait s'attendre.
La partie de la question sur Taïwan.
Alors ça, c'est une question extrêmement intéressante. On se demande toujours, nous les analystes, les gouvernements, si ce qu'il se passe sur un théâtre a une influence sur la manière dont d'autres gouvernements, d'autres États, d'autres néo-impérialistes comme Xi Jinping perçoivent justement notre capacité, notre volonté à défendre nos intérêts. Il y a des débats sans fin sur le sujet. Il est difficile de croire, je vous donne ma perception, il est difficile de croire que ce que font les Occidentaux n'est pas perçu, là pour le coup, par la Chine, d'une manière ou d'une autre, comme soit un petit peu faible, soit au contraire relativement fort. Alors, c'est pas parce que on ne se défendrait pas pour l'Ukraine que l'Amérique ne se battrait pas pour Taïwan, par exemple. Mais en tout cas, chaque conflit majeur est effectivement un test de volonté. Je ne doute pas que ça soit regardé très attentivement pour la Chine, qui, à mon avis d'ailleurs, s'estimera gagnante dans tous les cas. Mais je crois qu'il faut toujours en tirer des conclusions avec une grande prudence.
Je reviens juste sur les raisons d'une non-intervention militaire et ce que vous nous disiez à propos du Kosovo. Au fond, si je résume, l'enjeu géopolitique n'est pas assez important et le risque d'embrasement est trop important. C'est pour cela que les Occidentaux n'interviendront pas militairement.
Ils n'interviendront pas directement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un soutien direct qui va être massif d'ailleurs dans les jours qui viennent. Un soutien en termes de renseignement, de matériel de guerre.
Il y aura on peut livrer en ce moment à l'Ukraine du matériel de guerre. On peut passer?
Oui, on peut passer. Ça commence à devenir difficile. Il faut trouver les bons canaux. Il faut savoir exactement ce dont les Ukrainiens ont besoin en ce moment. Ça n'est pas si simple, mais on a déjà commencé à le faire depuis plusieurs semaines. En tout cas, individuellement, plusieurs pays européens ont commencé à le faire. Ça va s'accélérer. Je pense que tout le monde va y participer. Mais je ne crois vraiment pas qu'à part quelques volontaires, il y aura peut-être des volontaires européens pour aller se battre, mais ils ne représenteront pas leur pays. Donc c'est vrai, on n'ira pas se battre officiellement pour l'Ukraine. Ça ne me choque pas parce que lorsque vous êtes président ou premier ministre d'un grand pays européen, j'envoie l'armée se battre contre les forces russes au risque d'un conflit nucléaire, ça ne serait pas une décision à prendre à la légère.
Donc ça veut dire que le sommet de l'OTAN, dont on reparlera tout à l'heure avec Jean Lebrun, on en attend quoi? Éventuellement un renforcement des moyens des pays limitrophes autour de la zone de conflit.
Oui, et ça c'est important parce que ça veut dire d'abord rassurer ces pays sur quoi qu'il arrive, vous serez protégés. C'est extrêmement important. C'est aussi un signal à la Russie. Cela veut dire attention à ne pas nous provoquer sur les frontières. Maîtrisez vos troupes. Faites attention à ce qu'il n'y ait pas d'incident malheureux à une frontière parce que là, pour le coup, il y a une ligne rouge absolue pour nous. C'est celle de notre territoire collectif, celui des pays européens, membres de l'OTAN.
Pascal au standard. Bonjour Pascal.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Je voulais revenir sur Tchernobyl. J'ai appris que les Russes avaient pris le contrôle de Tchernobyl. Et ce que j'aimerais comprendre, c'est quel intérêt ça présente. Parce que Tchernobyl, c'est plus une centrale. Les réacteurs ont tous été arrêtés. C'est une charge pour gérer les déchets et le reste de l'accident et les restes de combustible des réacteurs qui ont été arrêtés. Mais à quoi ça peut leur servir à eux? Ou alors, est-ce que c'est pour faire une espèce de chantage en disant on fait tout sauter et on envoie toutes les poussières radioactives qui sont encore sur place dans toute l'Europe en choisissant bien la météo pour savoir où elles vont?
Merci Pascal. Et j'ajoute, Bruno Tertrais, que vous parliez tout à l'heure de la rationalité toute relative de Vladimir Poutine. Donc effectivement, le mot de Tchernobyl fiche un peu la trouille pour dire les choses.
Je comprends que ça puisse faire peur. Attention, la rationalité de M. Poutine, c'est une rationalité différente de la nôtre, mais qui est quand même une forme de rationalité. On a du mal à la comprendre, mais elle n'est pas illogique de son point de vue. Alors, je voudrais rassurer l'auditeur. Tchernobyl, c'est parce que c'est sur la route. Oui. C'est sur le chemin, tout simplement. Quand vous descendez depuis la Biélorussie ou...
À quoi ça tient la guerre?
C'est une zone effectivement très particulière. Il n'y a aucun intérêt pour les Russes à la contrôler. Simplement, c'est littéralement sur la route de Kiev. S'il y a un petit risque, mais là encore, je voudrais pas être trop alarmiste, s'il y a un petit risque, c'est que si jamais il y a 4 ou 5 centrales nucléaires ukrainiennes en activité dans des zones qui pourraient être des zones de combat, Il faudrait vraiment des bombardements très significatifs pour qu'il y ait un risque de dégagement de matière. Mais ce que je voudrais vous dire surtout, et dire à vos auditeurs, c'est qu'à ma connaissance, il n'y a strictement aucun risque sérieux de catastrophe radiologique de type Tchernobyl pendant ce conflit. Je ne voudrais pas m'avancer trop, mais c'est ce que disent en tout cas les experts que j'ai consultés sur le sujet.
On a commencé cet entretien, Bruno Tertrais, en parlant de Kiev, objectif renverser le régime. Y a-t-il des objectifs territoriaux au-delà du Donbass pour Vladimir Poutine ?
Ah ben la guerre s'étend déjà bien au-delà du Donbass. J'allais dire que la question maintenant, c'est plutôt savoir quelles sont les limites de conquête. Alors, il est possible, alors, il y a encore beaucoup de scénarios, il pourrait, après une opération dite de changement de régime à Kiev, il pourrait se replier sur le Donbass, mais le Donbass en entier, c'est-à-dire que jusqu'à présent, les forces pro-russes ne contrôlaient qu'une partie de Donbass.
Un tiers, dit-on à peu près.
Voilà, ouais. Donc les 70% restants, ça pourrait être ceci, ça pourrait être la jonction quasiment jusqu'à la Transnistrie, c'est-à-dire jusqu'à Odessa, au-delà de Mariupol, ouais. Jusqu'à Odessa, là on descend vers le sud-ouest, ça pourrait être ceci, mais c'est un objectif compliqué parce que ça voudrait dire contrôler une bande de terrain entre le territoire ukrainien et la mer Noire, ça serait pas facile. Ou alors, comme souvent, M. Poutine sera opportuniste, pragmatique, il s'arrêtera où il pourra s'arrêter.
Merci beaucoup Bruno Tertrais d'être venu nous apporter vos analyses en studio, vous qui êtes le directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique. 13h45.
France Inter, le 13-14.
À suivre dans le 13-14, bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Bruno.
L'Ukraine encore et l'OTAN dans le vif de l'histoire aujourd'hui.
L'OTAN naît en 49.
Avant cela, il y aura le feuilleton réalisé par Lucie Lemarchand et au micro de Thibaut Cavaillès. Et tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Alina Fanoukoé.
Bonjour Bruno.
Il est le fondateur de l'association Solidarité Sida, dont le prochain gala aura lieu le 12 mars à Paris avec de nombreux artistes sur scène. Luc Barruet vous a raconté une chanson qui lui tient à cœur.
Engagé et mélomane, Luc Barruet est aussi à l'origine du festival Solidays qui se tiendra du 24 au 26 juin sur l'hippodrome de Longchamp avec entre autres les Black Eyed Peas, Aurel San ou encore Justice. Il a choisi un titre qui peut résonner en chacun de nous. I am somebody, je suis quelqu'un, de Diams, la rappeuse à la plume et au flot de diamants. Pour Luc Barruet, bien cette chanson n'est pas seulement autobiographique, elle va bien au-delà.
Cette chanson est un témoignage, un plaidoyer sur la vie, dans ce qu'elle a de positif et dans ce qu'elle a de négatif. Et puis après, ça reste une des reines du games, hein, comme on le dit. Donc quand Diams pose son flot et qu'en plus elle écrit des choses qui la concernent personnellement, ça donne un truc très détonnant.
J'ai tous mes soldats derrière.
Ce que j'aime, c'est qu'entre son rapport aux parents, son rapport au milieu dans lequel elle a évolué, sa capacité ou peut-être sa difficulté à gérer les événements qui lui arrivent, donc notamment des succès fulgurants, parce que quand même, La Boulette, ça a été l'album le plus écouté, le plus acheté dans l'année à l'époque. C'est quand même très rare, ça. Et puis, c'est quelqu'un qui raconte avec toute son humilité sa chute, ses doutes, ses interrogations. Peut-être son envie de se redresser, mais c'est quand même une mise à nu que je trouve à la fois pudique et peut-être, comment je pourrais dire, intéressante pour la communauté quand on l'écoute. C'est-à-dire que moi, je me reconnais dans mon parcours, dans des choses qui sont arrivées dans ma famille, dans des interrogations et des doutes. Elle a cette capacité à écrire des textes qui se veulent universels, sans pour ça qu'elle en ait la prétention.
Je suis à court de force quand dans la rue on me désigne. J'aime l'amour que l'on me porte, mais pas que l'on me surestime. Ça me gêne tous ces regards, ces filles en larmes. Quand elles me croisent, la gloire des médias me dépasse. Donc désormais, je la dois. I am somebody.
Et cette chanson qu'apprécie Michel Bézikian et Clément Berman à la technique cette semaine est un témoignage, un plaidoyer, Aline.
Oui, un morceau hors format, 9 minutes, 7 couplets, pas de refrain, où Diams lance « Je sais que ma force n'est pas seulement sur la scène, mais aussi proche d'Amnesty que du secours populaire « I am somebody ». Les mots puissants de Diams font écho à l'engagement profond du créateur de l'association Solidarité Sida, Luc Barruet, qui reste intimement marqué par cette chanson et le charisme de la rappeuse.
La dernière fois qu'elle est passée à Solidez, elle a fait un concert exceptionnel, parce que c'était quand même une putain d'artiste de scène, hein, on peut le dire. En plus, on le sentait déjà à l'époque, pour l'avoir rencontrée à ce moment-là, qu'elle ne savait pas quoi faire de son succès, et que tous ces gens qui venaient la voir pour dire des choses gentilles, on ne sait pas quoi en faire. C'est-à-dire que moi, je n'ai jamais sorti d'album, mais déjà, quand les bénévoles à Solidez viennent me dire des choses gentilles, au bout d'un moment, je ne sais plus quoi en faire.
Ça la gêne, ça la met mal à l'aise, elle le dit dans ce...
C'est-à-dire que personne n'est prêt à gérer... trop d'amour, trop d'affection. Et puis surtout, quand le succès ou la reconnaissance explose, personne n'est prêt à ça.
Premier gros chèque, j'achète un appart à ma mère. Trop cher la villa sur la mer, mais ça, ça viendra après. On me regarde quand je les arme, on me shoot en loisir. Pour ça que je tape des photographes et que je casse tout chez Voici. Ces salauds ne mourront pas durant une année sous la lune. Je disparais des spotlights et je retourne dans ma bulle.
Quelle est la partie de cette chanson qui est la plus proche de votre vie à vous, Luc Barluet ?
Ben écoutez, voilà, dans ses réussites, elle a réussi à acheter une maison à sa maman. Alors elle n'était pas au bord de la mer, mais elle dit ça viendra. J'aime ces images, cette capacité à nous raconter une histoire qu'on connaît déjà, soyons clairs. Et reconnaître qu'à un moment, ben, on est bien peu de choses. Et malgré le succès, il y a des choses qui sont encore plus importantes et plus prioritaires. Et je pense qu'elle en a pris la mesure. C'est pour ça que je fais partie des gens qui respectent profondément ses choix, indépendamment du fait qu'on les comprenne complètement ou pas. Je trouve qu'elle mérite le plus grand respect au regard de sa manière de piloter sa vie.
I am somebody, Diams. C'était donc Alina Fanoukoé, le choix de Luc Barruet.
Oui, et c'est un petit peu le My Way de Frank Sinatra. Cette chanson, une sorte de regard rétrospectif sur la vie d'une grande artiste dont ce sera, et nous ne le savions pas à l'époque, il y a 13 ans, le quatrième et dernier album.
Deux rendez-vous avec Luc Barruet et de nombreux artistes. Solidays du 24 au 26 juin à Longchamp, évidemment, et le gala Solidarité Sida le 12 mars. Au Cirque d'Hiver à Paris. Merci Aline d'être passée
beaucoup
cette semaine dans les studios du 13-14. Ce fut un plaisir partagé lundi. On retrouve le copain Frédéric Pommier, 13h50. Une semaine dans leur vie, dernier épisode de notre feuilleton avec Rémi Serre, ancien appelé lors de la guerre d'Algérie, paysan retraité de 84 ans, toujours en colère contre l'action de l'armée française à l'époque. Il est retourné en Algérie il y a quelques années pour accomplir une démarche bien particulière, il raconte à Thibaut Cavaillès dans ce dernier épisode.
En 2002, j'ai 65 ans. Et là, tu as droit, si tu le demandes, à une retraite de combattant. Et si tu la demandes, de te donner à l'époque 425 euros par an. Et elle a augmenté, j'étais aujourd'hui à 750 euros par an. Et alors je dis au gars que je connaissais bien, là, cet argent-là, je ne le veux pas. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et donc voilà, on crée cette association et on ouvre la porte aux amis, on arrive à 450, voilà, pour donner un chiffre.
Adhérents.
Et donc, que faire de cet argent? On est riche, on a 70 à 80 000 euros tous les ans. Et donc, nous les donnons à des associations algériennes ouvrant pour la paix, en créant des écoles, en essayant de faire revivre l'agriculture de montagne, en ouvrant une bibliothèque qui nous demande des sous et on le retourne à ces gens. Au Kabylie, là, le village de Tazla, où je suis allé souvent, c'est un village symbolique, parce que pendant la guerre, il était en zone interdite, on l'avait détruite entièrement. Et puis, la plupart de ces villages détruits en Kabylie, plus personne n'y est revenu. C'est des tas de pierres. Mais là, ils ont reconstruit ce village. Et aujourd'hui, ils sont 17 ou 20 familles qui sont revenues au village, qui vivent de l'agriculture, entre autres, et puis souvent, ils ont un emploi. Mais enfin, en tout cas, ils vivent au village, et il y a une vie de village, et il y a des maisons qui se sont reconstruites. T'es ému de voir ça, quand même, quand tu as combattu dans ce village, parce que moi, j'avais combattu en face, là. On était reçus par la municipalité. Ils nous ont demandé de prendre la parole, et moi, j'ai dit, on était venu ici pour vous tuer. Enfin, voilà, c'est bien passé, puisqu'après, toutes les femmes sont venues me faire la bise, donc elles ne m'en voulaient pas. Et avec eux, nous sommes allés voir les associations que nous aidons. Avec eux, nous avons pu rencontrer des Fellahs, des gens qui étaient du même âge, des gens qui ont combattu dans le même maquis. Avec un, j'ai dit, c'est peut-être toi qui m'as blessé. On s'était donné un but à la première réunion de notre association, que l'on aimerait toucher la main d'un Fellahs. On avait rendez-vous sur la place de Bougie.
Bougie, c'est Béjaïa maintenant.
Oui. Et là, on se reconnut tout de suite. Et on est tombé dans les bras de l'autre et on a pleuré. Ouais, ouais, tu vois un type qui t'attend là-bas, qui a à peu près ton âge et qui est devant le bistrot que t'as donné rendez-vous. Tu dis, c'est lui. Hein. Et on a parlé tout l'après-midi, et puis on a parlé de tout ce qu'on avait vécu. Dans une après-midi, c'est un peu court. Hein.
Et il ne vous en voulait pas?
Non, mais il ne m'en voulait pas du tout. C'est la connerie humaine, c'est la guerre.
Sachant que lui, c'était un combattant pour son pays libre, et vous, vous étiez...
Je ne sais pas ce que j'étais. Je ne sais pas où je me situe, moi, je suis... Je peux me répéter, qu'est-ce que je suis allé foutre là-bas? Je suis un pauvre type qui suit les ordres, quoi, qui obéit aux ordres. Il ne fallait pas y aller une fois de plus, mais bon, on est allé.
Le feuilleton Une semaine dans leur vie, à réécouter tous les épisodes sur franceinter.fr et les bonnes plateformes de podcast. Il était signé Thibaut Cavaillès, 13h55.
France Inter, le 13-14.
Sommet extraordinaire de l'OTAN cet après-midi. Quel soutien à l'Ukraine, même si le pays n'est pas membre de l'Alliance Atlantique? C'est la question. L'OTAN est le sujet de votre Vif de l'Histoire aujourd'hui, Jean Lebrun.
Les rites de l'Alliance Atlantique, Bruno, se déroulent dans une salle de réunion où était pendue avant la rénovation de 2017 cette placide inscription en latin, vous aimez le latin, Animus in consulando liber.
Oui, nous sommes libres dans la consultation.
Aujourd'hui, la pression est très forte, alors l'organisation a peu connu d'équivalent de cette crise. Elle est née du traité de l'Atlantique Nord, signé à Washington en 1949. Le premier secrétaire général définissait ainsi le projet. On garde les Allemands à terre, mais surtout on tient les Russes dehors. Quant aux Américains, ils sont évidemment dedans. Ils sont même au milieu parce que c'est eux qui fournissent l'essentiel des moyens de l'organisation, dont ils n'ont pas besoin de réclamer le secrétariat général puisqu'ils en assurent le commandement militaire suprême. C'est une prééminence qui irritera De Gaulle, qui claquera la porte du commandement intégré en 1966. La France y perdra le siège de l'organisation, passée de Roquencourt à Bruxelles. L'inscription date-t-elle de là?
Je ne sais pas. Nous sommes libres dans la consultation.
Animus in consulando liber. L'article essentiel du traité de 49 indique que si se produit une attaque contre un des pays signataires en Europe ou en Amérique du Nord, elle sera considérée comme une attaque contre l'ensemble des parties. À l'époque, il n'y avait qu'une douzaine de membres, auxquels se sont ajoutés dans les années 50 les Grecs et les Turcs, oui, les frères ennemis, puis la République fédérale allemande.
L'Alliance Atlantique faisait face au pacte de Varsovie, qui regroupait les pays dépendants de l'URSS. Après l'effondrement du communisme, beaucoup ne donnaient pas cher de l'OTAN.
Ben oui, parce que le rapport de force était devenu si inégal que la Russie de Yeltsin sollicitait rapprochement, coopération. La grande salle de réunion, je ne vous fais pas redire la
Animus in consulando liber,
se dota d'une traduction simultanée en russe. La carte de vœux de l'OTAN de 95 représentait deux mains qui se serraient. La boutique de colifichets du hall vendait des t-shirts ornés de la rose des vents atlantiques aux envoyés des anciens pays de l'Est qui venaient quêter adhésion et protection avant que l'ours ne se réveille. Les premiers à se voir ouvrir la porte furent la Pologne, la Hongrie, la République tchèque, qui se souvenaient chacune d'une invasion terrible. Et parmi la trentaine des membres de l'OTAN d'aujourd'hui, on compte les Pays-Baltes, la Croatie, la Roumanie, la Bulgarie, le Monténégro, l'Albanie, mais pas l'Ukraine, qui ne bénéficie donc pas des assurances de l'article 5 que nous citions tout à l'heure.
Alors, si l'extension de l'OTAN s'est arrêtée, c'est à cause de la difficulté que posait à la Russie de Poutine le cas spécifique de l'Ukraine, mais c'est d'abord à cause du conflit du Kosovo.
Dont vous parliez tout à l'heure avec Bruno Tertrais. Au moment de l'éclatement de feu de la Yougoslavie, les Russes avaient accepté d'accompagner l'intervention de l'OTAN en Bosnie par une troupe de 1500 hommes nommée Effort Concerté. Mais l'émancipation du Kosovo, considéré comme le lieu fondateur de la Serbie, l'équivalent en somme de l'Ukraine pour la Russie, c'était une autre affaire. Poutine a soutenu le président Milosevic, le président serbe, et protesté hautement contre les bombardements de Belgrade, auxquels l'OTAN a fini par procéder au moment de son 50e anniversaire.
Alors on ne sait pas ce qui va advenir cet après-midi et dans les semaines à venir, mais la situation était hautement dangereuse en 1999.
Ben oui, un incident peut toujours se produire, on le disait à l'instant. Le Monde a consacré hier une enquête au bombardement par l'OTAN de l'ambassade de Chine à Belgrade. L'OTAN a osé prétendre depuis qu'elle ignorait que l'ambassade avait déménagé 2 ans auparavant. On ne sait toujours pas si l'attaque était intentionnelle. Ce qu'on sait, en revanche, c'est que le commandement armé ne s'est pas soucié de consulter ses alliés non américains. Pourtant,
Animus in consulando liber, l'esprit libre dans la consultation. Une des questions récurrentes pour l'OTAN, vous en parliez à propos de De Gaulle, c'est le rôle prééminent des États-Unis.
Les réformes du commandement prévues pendant l'apaisement du début des années 80 n'ont pas tenu leurs promesses, non plus que le retour de la France dans le commandement intégré. Sarkozy avait rêvé d'une structure bipolaire, les Européens exprimant un point de vue commun face aux Américains. Il est temps, la crise le montre, que la... Comment disait le président de la République, que l'Europe redevienne, devienne, s'interrogeait-il, une puissance.
Jean Lebrun, le vif de l'histoire, un tout petit mot, demain, 18h.
Eh bien, c'est Michel de Certeau, l'amour des marges.
Dans Intelligence Service, tout de suite et dans un petit instant, le flash de 14h.